Merci. Moi, je m'appelle Hubert, je suis un alcoolique. Aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Puis je veux remercier tout le monde d'être là parce que moi, j'ai essayé 30 ans de temps sans vous autres puis ça n'a pas fonctionné. Puis depuis les derniers 30 ans avec vous autres, ça fonctionne bien. Fait, je vous remercie beaucoup d'être là. On va faire une petite révision assez courte. À ce soir, on va essayer de passer à travers l'étape 6 et 7. Dans l'étape 5, la semaine passée, ils nous ont dit de retour à la maison, on va aller d'un endroit paisible pour repasser les 5 premières étapes pour savoir si on n'a rien oublié et être confortable avec ce qu'on a fait. Et puis, dans l'étape numéro 1, bien, ils nous ont dit qu'on avait admis qu'on était impuissant devant l'alcool et qu'on avait perdu la maîtrise de notre vie. Pourquoi je suis impuissant devant l'alcool? Parce que j'ai une allergie. Quand je consomme de l'alcool, sous quelque forme que ce soit, mon allergie se développe et je ne peux plus m'arrêter de boire. Ils disent que j'ai perdu la maîtrise de ma vie mais à cause de mon obsession. Quand je ne bois pas, j'ai le goût de boire de plus en plus fort jusqu'à temps que j'aille boire. Aussitôt que je bois, bien, l'allergie se met dans la fête et puis je ne peux plus m'arrêter de boire. Il faut que je comprenne la maladie, les deux portions de la maladie. La solution pour l'allergie, bien, c'est de jamais goûter à la boisson sous quelque forme que ce soit. La solution pour l'obsession, bien, c'est d'en venir à croire à quelque chose de différent qu'on a toujours cru qui va pouvoir nous arrêter cette obsession-là. Qui est notre deuxième étape. La solution de la deuxième partie de la première étape, c'est la deuxième. L'ensemble venait à croire qu'une puissance supérieure humaine pourrait nous rendre la raison. Ils nous disent que c'est pas important à quoi qu'on croit, mais c'est important que ça fasse du sens dans notre tête. Si ça ne fait pas de sens dans notre tête, il faut modifier l'idée qu'on a de cet être suprême-là, de ce Dieu-là, de la façon qu'on veut l'appeler, mais changer la façon ou les jobs qu'on y a donné à cet être suprême-là. Si on veut perdre notre obsession, le jour qu'on réussit à faire ça, on réussit à avoir une conception un peu différente de Dieu qui fonctionne dans notre vie. Là, on peut faire notre troisième étape, c'est qu'on a décidé de confier notre volonté et notre vie au sommet de Dieu tel que nous concevions. On a décidé, on peut confier notre vie à cet être suprême-là, mais il faut en avoir confiance. C'est pour ça que la deuxième étape, il faut découvrir cet être suprême-là. Il faut découvrir cette confiance-là qu'on peut avoir en cet être suprême-là pour qu'on puisse enfin dire donner nos vies, qui sont nos actions et nos pensées, dire donner ça à Dieu puis qu'on peut aller régler notre passé de l'étape 4 à 9. L'étape 4, mais on a procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de même. Pourquoi? Sans crainte, parce que j'ai Dieu dans ma vie. Puis Dieu va m'enlever mes peurs. On va le voir à la quatrième étape, comment est-ce que Dieu nous enlève nos peurs. Dans la quatrième étape, on va aller faire un inventaire moral, pas un inventaire physique de ce qu'on a, mais un inventaire moral. On va commencer avec nos ressentiments. Ils nous disent que les ressentiments, c'est l'ennemi numéro un de l'alcoolique. C'est quoi un ressentiment? C'est quand je pense à quelqu'un ou quelque chose qui me rend malheureux, qui me fait mal en dedans. Ça, c'est un ressentiment. Ils nous disent, on va commencer par ça. Nous autres, on suggère que vous preniez des feuilles séparées pour chaque personne. On met le nom de la personne dans le haut. À gauche, on va aller écrire ce que cette personne-là nous a fait de pas correct. Puis à droite, on va aller écrire comment on s'est senti à cause de ça. On va passer notre vie en revue, puis la solution après ça, bien, on va considérer ces personnes-là comme spirituellement malades, puis on va commencer à prier pour eux autres avec la belle prière qu'on a dans le bas de la page 114 puis l'autre de la page 115. Quand on a fini ça, on va retourner à notre liste. Nous autres, on conseille encore une fois de prendre une nouvelle liste, des nouvelles feuilles, une personne par feuille. Je vais aller écrire les personnes à qui j'ai blessé. Je vais aller écrire le nom de personne que j'ai blessé en haut. À droite, je vais aller écrire ce que j'ai fait à cette personne-là de pas correct. Puis à gauche, je vais aller écrire comment j'aurais dû me comporter, comment j'aurais dû faire au lieu de faire ce que j'ai fait. Puis on va passer notre vie en revue, être précis et honnête. Puis quand on va avoir fini de faire tout ça, bien, on va aller considérer que oui, il va falloir que j'aille faire des amendes honorables, il va falloir que j'aille faire des corrections sur mes attitudes. Après ça, troisième partie, bien, ils nous parlent de nos peurs. Ils nous disent, à l'étape 3, qu'on a des centaines de sortes de peurs qui sont basées sur deux peurs principales. La première peur, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Puis la deuxième, j'ai peur de ne pas obtenir ce que je pense qui me revient. Quand je mets ça dans toutes les étapes de ma vie, bien, ça fait des centaines de sortes de peurs. Puis comment je vais me débarrasser de ça? Bien, je vais demander à mon aide suprême qu'il m'enlève ces peurs-là. Physiquement, il demande, je vais les écrire. Physiquement, il demande qu'il m'enlève, puis ils vont disparaître. Puis s'ils ne disparaissent pas tout de suite, bien, arrêtez pas d'y demander. Continuez de demander éventuellement, ils vont disparaître ces peurs-là. Puis après ça, il nous parle de la quatrième partie, la quatrième étape, c'est la partie sexuelle. Mais on va faire comme on a fait avec les trois autres parties, on fait ça sexuellement. Les personnes qui m'ont blessé, les personnes que j'ai blessées, puis les peurs que j'ai pu avoir sexuellement. Quand j'ai tout fini ça, bien, je vais aller faire une cinquième étape. Dans la cinquième étape, ils nous disent que cette étape peut être difficile, particulièrement lorsqu'il s'agit de discuter de nos défauts avec une autre personne. Fait qu'une cinquième étape, c'est pas une personne qui va écouter. C'est pour ça que c'est important de choisir la bonne personne, se questionner avant, puis être certain comment que la personne fasse une cinquième étape. La bonne façon de faire une cinquième étape, quand moi je vais faire une cinquième, quand on m'appelle, on me demande si je veux faire une cinquième étape avec eux autres, bien, je vais aller m'asseoir avec eux autres, puis je vais aller questionner peut-être les départements ou les places que je pense qu'elle a dû aller, puis on peut aller, parce que souvent, la quatrième est faite, on n'est pas trop sûr, on a peur d'écrire des choses, on se dit, bien, je vais attendre, mais j'arrive à la cinquième étape, je vais le dire à la personne, mais souvent on oublie. Fait que la personne qui fait la cinquième avec moi, bien, devrait être capable de comprendre ce que je suis, de me donner des conseils, puis de me dire à la fin, bien, si tu as des problèmes, si ça ne marche pas à ton goût, ça ne marche pas correct, mais rappelle-moi ou reviens me voir. C'est ça de la bonne personne. Puis il faut discuter de nos défauts avec quelqu'un. C'est ça le but de la cinquième étape. Puis c'est pour ça qu'ils nous disent après ça, à l'étape 6, avant l'étape 6, d'aller-retour à la maison, on va aller reviser ces 5 étapes-là pour être certain qu'on n'a rien manqué. Puis là, ils nous disent, dans le bas de la page 85, dans le gros livre, là, ils nous disent, si nous pouvons répondre de façon satisfaisante à ces questions, alors nous passons à la 6e étape. Si je peux être confortable que mes 5 premières étapes ont été faites comme il faut, bien, je vais passer à la 6e étape. Ils nous ont dit là-dedans, nous avons déjà dit et répété, la bonne volonté est indispensable. Sommes-nous prêts maintenant à laisser Dieu nous enlever toutes les choses que nous avions reconnues comme répréhensibles en nous? Tous les défauts de caractère, tout ce que j'avais de pas correct dans la quatrième et cinquième étape, j'ai dû les réviser. Là, je vais aller les écrire pour être certain que je vais les avoir en note pour demander à Dieu qu'il me les enlève. Okay? Toutes les choses que nous reconnues comme répréhensibles. Peut-il maintenant les prendre tous et chacun? Si nous accrochons encore à quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas entièrement confiant que je veux me débarrasser de ces défauts-là, bien, je vais demander à Dieu de m'aider à vouloir d'y renoncer. Je vais demander à Dieu d'avoir la volonté de vouloir d'y renoncer. Puis aussitôt que la volonté arrive, bien là, je vais demander à la 7e étape qu'il m'enlève ça, ces défauts de caractère-là. Pourquoi je veux qu'on m'enlève mes défauts de caractère? Parce que moi, si je n'aime pas quelqu'un, ou si quelqu'un m'approche et je n'aime pas ça, bien, je vais me développer un défaut de caractère pour les tenir loin de moi. Puis ces défauts-là, bien, ils nuisent, puis ils nuisent à mon prochain. Je veux me débarrasser de ça. Dieu va le faire. On va aller dans le 12 par 12, parce que dans la 6e étape, il y a juste cette page-là. Ce n'est pas qu'elle n'est pas complète, mais il n'y a pas trop d'explications. Ils nous disent que quand on est prêt, on demande à Dieu, mais il faut se préparer. Comment on va se préparer? On va aller à page 73 dans le 12 par 12. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus dans le 12-12 que dans le gros livre. On va essayer de faire 6 et 7. Si on réussit à faire les deux, ça va être pratiquement juste dans le 12-12. À page 73, il nous dit, voilà l'étape qui distingue les adultes des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un enfant, si on lui donne une petite tâche, puis il va l'accomplir, on va, bravo, bravo. Mais les adultes, c'est pas ça, nous autres. Il faut aller dans tous les domaines de notre vie et être capable de se débarrasser de tous ces défauts-là, qui est une tâche assez ardue. Ils nous disent, toute personne capable d'assez bonne volonté et d'honnêteté pour appliquer très souvent la 6e étape à tous ses défauts, sans aucune exception, a déjà fait des grands progrès spirituels. Un peu plus bas dans le bas de la page, un peu plus loin dans le bas de la page, ils nous disent, certainement, j'étais entièrement battu, anéanti. Je n'avais plus aucune force de volonté contre l'alcool. Les changements de milieu, les efforts de ma famille et de mes amis, des médecins, des prêtres, ne produisait aucun résultat sur mon alcoolisme. Ils nous disent qu'on n'a pas réussi à l'alcool, on ne réussira pas plus à nos défauts nous autres-mêmes. Mais lorsque je suis décidé à mettre de l'ordre dans ma vie, dans notre page 74, et que j'ai demandé à une puissance supérieure, c'est-à-dire à Dieu de ma conception, aujourd'hui, je devrais avoir une conception assez forte de cet être suprême-là, que je peux l'appeler Dieu, ma puissance supérieure, l'être suprême, une force supérieure, n'importe quel nom, mais on se dit souvent le mot « Dieu » parce que c'est un mot plus simple à répéter. Mettre de l'ordre dans notre vie, j'ai demandé une puissance supérieure, c'est-à-dire à Dieu que je conçois, de m'en libérer. De libérer mon obsession de boire, quand j'ai demandé ça, elle a disparu. Elle me fut littéralement arrachée, puis ça va être la même chose avec mes défauts. On peut donc dire que de façon absolue, littéralement, tous les membres des hauts sont devenus tout à fait brefs que Dieu élimine de leur vie, cette manie de l'alcool. C'est exactement ce que Dieu a fait. Puisque nous avons été gratifiés d'une libération totale de l'alcoolisme, pourquoi ne pourrions-nous pas, par le même moyen, nous libérer totalement de chacun des autres défauts et problèmes? Mais il faut que je demande à Dieu, il faut que je rassemble ça, tous ces défauts-là, puis ils vont nous aider à en trouver des défauts de caractère. Puis moi, je suggère toujours de demander à votre copain, votre copine, aux amis proches, les personnes que vous travaillez avec, si vous n'êtes pas sûr de vos défauts de caractère, ils vont vous aider à les énumérer. Les gens sont gentils de cette façon-là. Après ça, on va aller à page 75, milieu de la page. Ils nous disent, comme nous naissons presque toutes avec une grande abondance de penchants naturels. On a parlé la semaine passée, c'est quoi nos penchants naturels? C'est nos trois instincts qu'on a. L'instinct sexuel, l'instinct de sécurité matériel et émotif, puis l'instinct social. Ces trois grands instincts-là nous ont été donnés par Dieu. Puis le problème qu'il y a, c'est souvent qu'on en abuse ou on laisse les autres en abuser. Fait qu'on va voir ce qu'ils nous disent. Comme nous naissons presque tous avec une grande abondance de pensants naturels, il n'est pas étonnant que nous les laissons souvent outrepasser largement le rôle qui leur est destiné. Lorsqu'ils nous emportent aveuglément ou que nous décidons d'en exiger plus de satisfaction et de plaisir qu'il n'est possible ou nécessaire, nous nous éloignons alors du niveau de perfection auquel Dieu nous destine sur cette terre. C'est là la mesure de nos défauts, si vous préférez, de nos péchés. Nos défauts, c'est quand on abuse de ces instincts naturels-là, l'instinct sexuel, l'instinct de sécurité et l'insécurité matérielle et émotive, puis l'instinct social. Si on veut toujours être le premier, puis en faire plus, puis en avoir plus tout le temps, bien, c'est ça nos défauts, ils se représentent avec ça. Les gens qui nous entourent, qui nous côtoient, les voient très bien ces défauts-là, puis souvent, on est les derniers à s'en apercevoir. Je sais que moi, quand j'arrive à A, je pensais que j'avais aucun défaut. Puis avec mon parrain, puis avec votre aide, j'ai réussi à en trouver peut-être au-dessus de 100 défauts. Puis qui sont encore là, mais aujourd'hui, je ne suis pas obligé de m'en servir autant. Je m'en sers beaucoup moins souvent, puis bien beaucoup moins longtemps. Là, il nous dit dans le bas de la page 75, « Si nous demandons à Dieu, Dieu nous pardonnera sûrement nos manques, mais en aucun cas, il acceptera sans notre collaboration de nous rendre blancs comme neige et de nous garder dans cet état. » C'est là une chose que nous devons faire nous-mêmes. C'est moi à demander à Dieu de m'enlever ces défauts-là. Si je n'y demande pas, je vais rester avec eux autres. Donc, on a un paquet de monde qui sont dans haut, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis ça ne paraît pas beaucoup parce que les défauts sont prédominants encore. Fait que c'est pour ça. Mais quand Dieu ne va rien faire si je n'y demande pas. Ma job à moi, en sixième étape, c'est de demander à Dieu de m'aider à reconnaître mes défauts et de faire la liste. Chaque fois que j'en ai un, je l'écris. Je peux avoir une page ou deux pages de liste de défauts de caractère. Okay? C'est là une chose que nous devons faire. Il nous demande seulement de faire notre possible pour améliorer notre caractère. Dieu n'est pas trop exigeant, nous autres. Dieu n'a ma conception en moins. Il ne me réprimande jamais. Si j'agis mal, il me laisse aller. Tant que je demande pas de... Tant que ça ne fait pas mal assez en dedans pour que j'y demande, bien, il me laisse aller. Mais il ne me punit pas. Tout ce qu'il fait, quand je demande de l'aide, il m'en donne. Puis quand ça va bien, bien moi, j'ai appris à lui dire merci. Par conséquent, la sixième étape, nous étions tout à fait presque que Dieu élimine tous ses défauts. Et la façon des AA de décrire l'attitude la plus souhaitable à prendre pour amorcer ce travail de toute une vie. C'est que je devienne convaincu que je devienne convaincu que tous ces défauts-là peuvent disparaître. Puis qu'est-ce qui va arriver? Plus les défauts vont disparaître, plus que je vais devenir joyeux, heureux et libre, sans avoir à abuser de personne ni de rien. Un peu plus bas, il dit le mot-clé tout à fait près, souligne que nous voulons faire tout notre possible ou apprendre de notre mieux. C'est ça, être tout à fait prêt, c'est de le vouloir. Ça ne se passe pas à 100%, mais on va avoir des grosses améliorations. Un peu plus bas dans la page, ils nous disent, même après des progrès considérables, nous nous découvrons toujours des désirs qui s'opposent à la grâce de Dieu. Ça ne l'arrêtera pas. Des nouveaux défauts de caractère qui vont sortir. Toutes les soirs, moi, avant de me coucher, je me mets à genoux, puis je fais la liste mentale de mes défauts de caractère, puis je demande à mon maître suprême qui m'aide à me débarrasser de ça. Parce que tous ces défauts-là, ils vous font du mal à vous autres, puis ils me font du mal à moi aussi. Fait que je ne suis pas content de moi quand je vais me mettre à genoux le soir, puis je m'aperçois les quatre défauts principaux là, qu'on énumère toujours. C'est mon égoïsme, ma malhonnêteté, avoir des peurs, puis manquer de considération. Quand je prends soin de ces quatre défauts principaux-là, là, dans ma quatrième, dans ma dixième étape de soir, le reste va pas mal tout se placer en place. Après ça, il nous parle des sept péchés capitaux. Vous ne passerez pas à travers de ça parce qu'il nous dit ceux-là, ce n'est pas trop dur de s'en débarrasser parce que la loi, souvent, va avoir soin de nous autres si je dérive trop là-dedans. On le sait aujourd'hui, on entend chez les nouvelles toutes sortes de gestes sexuels ou indécents qui ont été commis par bien des artistes que, il y a 50 ans, peut-être c'était acceptable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais le monde qui continue à le faire, bien, ils se font prendre comme on dit, les culottes baissées. Il y en a un que je vais lire là, dans les péchés capitaux, c'est « On peut prendre beaucoup de plaisir à la colère prétendument justifiée. » C'est la colère, c'est un gros défaut. En tout cas, c'est un de mes gros défauts. Puis moi, je ne le savais pas parce que je pensais que je vous aiderais avec ça. Je t'ai pour vous montrer comment ça marchait. La colère présente. « Sournoisement, les gens qui nous ennuient nous procurent des satisfactions. car nous en tirons une agréable impression de supériorité. Je me choquais après toi, mais là, quand je te l'ai dompté, je t'ai montré un élan de supériorité, puis en réalité, c'est juste un défaut que j'ai exposé à tout le monde. Nous prenons aussi un certain plaisir à répandre des commérages envenimés de colère, ce qui revient à commettre le meurtre sous la forme élégante de l'assassinat des réputations. Tu sais, quand quelqu'un nous fait mal, on va en parler à d'autres, on se réveille la nuit, on en parle à d'autres, puis on veut que tout le monde l'haïsse, là, mais c'est nous autres qui en souffrent le plus, parce que souvent, ces personnes-là même pas au courant. Fait qu'on fait l'assassinat des réputations. Il marque ici, nous ne cherchons pas à aider ceux que nous critiquons, mais plutôt à faire valoir nos propres mérites. On va continuer à même ordre. La même page 78 dans l'eau. Lorsque notre gourmandise ne va pas jusqu'à nuire à notre santé, nous nous disons alors que nous offrons des petites douceurs. Nous vivons dans un monde dévoré par l'envie. Tu sais, le voisin s'est acheté un char neuf, je dis, mais il n'est pas capable d'acheter ça, comment ça qu'il achète ça? Ou, n'importe quoi qui peut arriver. On envie les autres, on n'a aucun besoin d'envier les autres. Si on finit par se connaître, on finit par accepter qui qu'on est ou qui qu'on peut devenir, on va faire un degré d'acceptation qui va faire que ce désir-là d'envier les autres va disparaître. Nous vivons dans un monde dévoré par l'envie, nous sommes tous plus atteints. Nous devons sûrement tirer de ce travail une satisfaction malsaine, peut-être, mais pourtant réelle. Tu sais, c'est comme parler des autres. Autrement, pourquoi prendre un temps si considérable à vouloir des choses que nous n'avons pas plutôt que de travailler pour les obtenir? Pourquoi chercher à l'aide ce qu'on ne saura jamais au lieu de prendre conscience et de l'accepter? Il faut que j'accepte mon budget, qu'est-ce que j'ai à vivre avec. C'est ça que j'ai à vivre avec, puis c'est pas la fin du monde. J'ai juste, le jour que j'accepte ça, je peux devenir joyeux, heureux et libre sans être millionnaire, sans être n'importe quoi d'autre. Mais il faut que j'apprenne ça, puis j'apprends ça à travers l'étape 6 et 7 de corriger mes défauts de caractère. On ne saura jamais au lieu d'en prendre conscience. Que de fois notre ardeur au travail, aucun d'autre but qu'une sécurité débouchant sur l'oisivité que nous déguisons sur le mot de la retraite. Pensons aussi à l'habilité que nous avons à remettre plus tard une façon de dire paresse en plusieurs mots. C'est moi de la paresse, j'ai encore ça dans un problème. J'ai jamais aimé travailler et j'aime pas encore ça. Fait que souvent, je retarde de faire mon ménage 2-3 jours, mais ça me fatigue. À un moment donné, je me lève un matin et je dis je le fais, en dedans d'une heure ou deux, c'est tout fait, puis je file donc mieux. Mais je ne suis pas plus intelligent, dans 2 semaines, ça va t'apprendre encore. Et puis, au lieu de le faire toutes les semaines, bien. Je laisse traîner ça, puis ça me fait mal. C'est de la paresse. Tout le monde pourrait sans doute dresser une bonne liste de défauts de ce genre, mais nous ne serions pas nombreux à vouloir sérieusement nous en défaire. Du moins, tant qu'il ne causerait pas trop d'ennui. Mais la 6e étape, c'est pas ça, c'est qu'on veut s'en défaire de tout. Ça n'a pas d'importance lesquelles. On veut tous se débarrasser de ça. On voit dans l'eau la page 79, ils nous disent « Ainsi donc, entre les enfants et les adultes, il y a la même différence que tendre vers un objectif que l'on se fixe soi-même et l'objectif parfait déterminé par Dieu. » Mais mon objectif parfait, c'est de me débarrasser de tous mes défauts de caractère, même si je suis au courant qu'ils ne disparaîtront pas tous. Mais au moins, je peux les atténuer. Puis je sais qu'aujourd'hui, je m'en sers pas mal moins souvent, puis pas mal moins fort que je m'en servais avant. Puis à tout bout de champ, il y a un nouveau défaut qui revient, que je pensais de l'avoir serré comme il faut, mais il ressort, puis je demande à Dieu encore qu'il m'aide à me débarrasser de ça. Disent ici, vu cet angle, la 6e étape demeure difficile, mais pas du tout impossible. La seule chose qui presse est de la commencer et de continuer à faire de notre mieux. Tous les soirs, je devrais faire une 6e étape avant de me coucher. Pour bénéficier de l'application de ces étapes pour d'autres problèmes que l'alcoolisme, il faudra faire une toute nouvelle expérience d'ouverture d'esprit. Nous devons viser la perfection et consentir à marcher dans cette direction. On ne deviendra jamais parfait. Mais un de mes mentors en Floride disait tout le temps, tu sais, si je mets la main juste en avant de moi comme ça, là, c'est le plus haut que je vais aller. Mais si je mets ma main bien haut, c'est certain qu'elle va descendre tranquillement. Puis ça, c'est le reflet de mes défauts de caractère. Si je commence au milieu, bien, ils vont se propager, ce ne sera pas long. Si je commence en haut, demander la perfection, bien, c'est certain qu'ils ne disparaîtront pas tous, mais ils vont disparaître. Il y en a qui vont partir tranquillement. Puis ma qualité de vie va devenir meilleure, puis il va être plus facile à vivre avec aussi. Nous devons viser la perfection. Nous aurons rarement à nous inquiéter du rythme de notre démarche. L'important est de savoir si nous sommes prêts. Suis-tu réellement prêt à me débarrasser de la colère, à me débarrasser de l'envie, à me débarrasser de tous ces défauts de caractère-là qui nuisent à tout le monde autour de moi? Moi, quand j'arrivais haut, je pensais que c'est mes défauts de caractère, je considérais ça comme des qualités qui vous aidaient à vous autres. Puis je me suis aperçu que ça vous nuisait, puis ça me nuisait encore plus à moi. En demandant à Dieu de se préparer, d'avoir la volonté de vouloir se débarrasser de tout, ça n'a pas d'importance quel défaut minime ou grave que j'ai, je veux qu'il m'en débarrasse de tout. Il reste en page 80, il reste encore un dernier point à analyser qui peut présenter un risque. Il nous est suggéré d'être tout à fait prêt à attendre vers la perfection. Un certain délai, notons-le, peut être excusé. Sauf qu'avec les tendances à l'alcoolique de rationaliser, ce mot aurait sûrement de suggérer une lointaine échéance, comme je vous montrais avec la main levée. L'alcoolique se dira rien de plus simple. Bien sûr que je vais te diriger vers la perfection, mais certainement pas en courant. Je pourrais peut-être t'attarder à tout jamais de m'attaquer à certains problèmes. Cette attitude n'est sûrement pas acceptable. Ce n'est pas la chose à faire. Une telle rationalisation, si plaisante soit-elle pour moi, elle devrait emprunter le même chemin que les autres. Toi, toutes les soirs, il faut que je demande à Dieu qu'il me donne la volonté de vouloir me débarrasser de tous ces défauts de caractère. Peut-être que je suis impatient dans les lignes d'attente, surtout avec la COVID aujourd'hui. Les gens passent proches de moi. Je demande à Dieu, aide-moi à être patient. Donne-moi de la patience. Comment Dieu me donne de la patience? Bien, c'est en pratiquant ça. Le monde va passer proche, puis je dis, merci mon Dieu que ce n'est pas moi qui est arrangé de même, ce n'est pas moi qui va coller tout le monde, ce n'est pas moi qui va couper le monde, merci mon Dieu, parce que je pourrais être arrangé de même, ça pourrait être moi qui est de même. Fait qu'au lieu d'être mal avec les autres, on va remercier Dieu que ce n'est pas nous autres qui est arrangé de même, puis on va se surveiller pour être certain qu'on ne tombe pas dans ces défauts de caractère-là. Une telle racine spéciale. Nous devons tout au moins nous attaquer à nos pires défauts et nous mettre à l'œuvre pour nous en défaire dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, bien, ça commence aujourd'hui. À soir, je vais demander à mon aide suprême qui m'aide à me débarrasser, à me donner la volonté de vouloir me débarrasser de tous mes défauts. Parce que tant que je n'ai pas la volonté de vouloir m'en débarrasser, ça ne marchera pas. Si nous disons non jamais notre esprit se ferme à la grâce de Dieu, tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités, comme les enfants ont des objectifs limités, pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Une volonté parfaite que je vais essayer d'atteindre. Je sais que je l'atteindrai jamais, mais je m'en vais dans cette direction-là. Je remercie Dieu. Chaque fois que je m'aperçois d'un défaut de caractère que j'ai omis ou que je n'ai pas fait, je n'ai pas pratiqué, quand je joue au golf, je manque un mauvais trou de golf, puis je ne sacre pas. Mais je dis merci, mon Dieu, de m'avoir arrêté de sacrer. Parce que j'ai une tendance à. Ce n'est pas de la faute de Dieu si je manque mon coup, mais j'avais la tendance à ne pas aimer ça. Aujourd'hui, bien, je me protège plus. Je demande à Dieu avant de commencer, aide-moi pour sacrer, parce que ça s'appelle un jeu de golf. Je vais jouer avec d'autres gens, puis c'est insultant pour eux autres qui aiment le jeu du golf, puis je vais sacrer parce que j'ai manqué un coup. Mais voyons donc. C'est tout ça, ça vient tout à nous accrochons à quelque chose, demandant à Dieu de nous en départir, de nous aider à avoir la volonté de s'en départir. La sixième étape, c'est juste ça. Je vais aller fouiller à travers de ma quatrième et aider de ma cinquième étape. Je vais aller écrire tous mes défauts de caractère. Puis comme je dis, si vous avez de la misère à en trouver, demandez à vos amis proches, à vos parents, votre conjoint, votre conjointe, vos amis de travail. Ils vont vous aider à aller trouver vos défauts de caractère. Parce que de nous autres même, je ne sais pas vous autres, mais moi, quand j'ai arrivé, j'étais parfait. Puis quand j'ai fait ma sixième étape, bien, j'avais au moins 100 défauts de caractère décrits. Puis j'en ai découvert plusieurs depuis ce temps-là aussi. Il y en a qui ont disparu, puis il y en a qui reviennent. Puis là, ils nous disent, quand nous sommes prêts, quand je suis prêt, je suis prêt à que Dieu m'enlève toutes, bon, on va aller faire la prière en bas de la page 85 dans le gros livre, qu'on appelle la prière de la septième étape. Quand nous sommes prêts, nous disons quelque chose qui ressemble à ceci. C'est une prière qui nous suggère. Je peux changer les mots un peu si c'est plus facile que moi, mais c'est une belle prière. Dis, mon Créateur, je suis maintenant disposé à ce que vous preniez tout ce que je suis, bon ou mauvais. Parce que moi, des fois, je pense que le bon, il est bon, puis des fois, mon bon, il n'est pas bon. Mais dans ma tête à moi, c'est bon. Fait que là, je dis à Dieu, je ne prends pas de chance. Prends tout ce qu'il y a dedans de moi, de bon puis de mauvais. Je vous demande d'ôter de moi chacun des défauts qui m'empêchent de vous être utile. Prends tout ce qu'il y a dans moi, puis remets-moi juste ce que c'est qui peut être utile. Okay? À vous et à mes semblables. Accordez-moi la force de faire votre volonté à partir de maintenant. Aidez-moi, mon Dieu, à faire votre volonté. Arrêtez d'utiliser mes défauts de caractère, parce que nos défauts de caractère, on vous blâme avec ça. On blâme tout le temps les autres avec nos propres défauts. C'est pour ça que mon parrain me dit, c'est correct, c'est écrit les défauts d'un autre, signe ton nom dans le bas. Parce que souvent, c'est là qu'on reconnaît le mieux, c'est les défauts. Nos défauts, on ne les voit pas, on est parfait, nous autres. Mais autour de nous autres, il y a un paquet de monde désagréable. Donc, on va aller écrire le défaut, puis on va aller signer notre nom dans le bas. Ça va déjà être un bon début pour nos défauts de caractère. Là, on va retourner dans la septième étape, dans le 12 par 12, à la page 81. On va passer le restant de la période là-dessus. On va faire 6 et 7. La semaine prochaine, on va essayer de faire 8 et 9. La septième étape, c'est nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. On a beaucoup de troubles avec le mot humilité, hein, le mot humble. Là. On a donc de la misère avec ce mot-là. Chez le dictionnaire, la définition est un petit peu différente, mais dans le gros, dans le 12 par 12, à la page 68, dans l'autre, à la page 68, là, il y a une définition du mot humilité. On l'a lu la semaine passée, mais je vais le relire parce que pour moi, c'est tellement ça, c'est tellement à point ça. Dans l'autre, à la page 68, ils nous disent « L'autre dividende remarquable que nous pouvons espérer de l'aveu de nos défauts à un autre être humain est l'humilité. Un mot souvent mal compris. » C'est certain que moi, je ne le comprenais pas parce que c'est pas ça. L'humilité, moi, je pensais qu'il fallait que je me fasse humilier. Ça ne ressemble pas à ça du tout. Pour ceux qui ont fait quelques progrès chez Hoffman, pour ceux qui ont commencé à faire les étapes, là, c'est ceux qui ont fait quelques progrès. L'humilité consiste à reconnaître clairement qui nous sommes et ce que nous sommes. L'humilité, c'est d'aller savoir qu'est-ce que je suis, dans quoi je suis bon, dans quoi je ne suis pas bon. Moi, je sais que pour donner l'étude des étapes, l'étude du gros livre, je suis bon. Je n'ai pas de misère à vous dire que je suis bon parce que je sais que c'est la vérité. Je ne me vante pas, je sais que c'est ça. Pourtant, si on va dans n'importe quel métier de la construction, je ne suis pas bon du tout, je ne suis pas adroit là-dedans, puis je sais que je brise plus que j'arrange. Mais c'est ça, se connaître. L'humilité, c'est de se connaître, savoir exactement qu'est-ce que je peux faire. Puis aider les autres avec les... C'est des dons de Dieu quand on est capable de faire quelque chose. C'est Dieu qui nous donne un don. Si je suis un bon ouvrier, bien, j'ai un don de Dieu, il faut que j'aille aider les autres avec ce don-là. N'importe quel don qu'on a. C'est tous des dons de Dieu. L'humilité consiste à reconnaître clairement qui nous sommes et ce que nous sommes et à chercher sincèrement ensuite à devenir ce que nous pourrions d'être. Je vais essayer de devenir la personne que je vais créer pour devenir la personne que je suis supposé d'être. Dans mon... J'entends souvent dans les meetings, « Ah, moi, je suis fait de même. Ah, moi, je suis fait de même. » On n'est pas fait de même, c'est pas vrai. Il n'y a pas un des autres qui est fait comme on est aujourd'hui. On est venu au monde parfait. Puis, si vous voulez voir un être parfait, là, allez voir un nouveau-né. Là, on le prend dans nos mains, là, il est tout petit. Puis, il ne peut pas être plus parfait que ça. Mais ce petit nouveau-né-là, il vient au monde dans un monde imparfait. Il va se faire élever avec des parents imparfaits. Il va à l'école imparfaite. Il va avoir des amis imparfaits. Puis, il va continuer à être imparfait. Tant qu'on n'a pas découvert ça, ben on continue dans notre perfection de l'imperfection. Et jusqu'au jour qu'on arrive à faire nos étapes, à concevoir qu'on a bien des défauts de caractère. T'sais? Puis on peut se changer. On peut changer notre attitude envers la vie, envers Dieu, puis envers les autres êtres humains. C'est sûr que les étapes vont nous faire faire. Ils vont nous aider à améliorer nos défauts. Diminuer nos défauts pour avoir des meilleures qualités, pour pouvoir rendre service le plus possible à plus de monde possible. C'est ça. Chercher sincèrement ensuite à devenir ce que nous pourrions être. Alors, pour faire un premier pas vers l'humilité, on doit reconnaître ses faiblesses. Les faiblesses, c'est nos défauts. Il est impossible de corriger un seul défaut sans l'avoir bien identifié. Moi, j'arrive au haut, je n'avais pas de défauts, fait que je ne pouvais pas les corriger. À travers des étapes, je m'en suis rendu compte de tous mes défauts. Du coup, je pense que j'ai essayé pas mal toutes. Puis je continue de demander à Dieu de me libérer de ça parce qu'ils surviennent tout le temps. Il y en a tout le temps dans une occasion spéciale, un petit défaut qui va sortir, puis des fois, c'est un gros défaut. Fait que toutes les soirs, il faut que je demande à Dieu la volonté de vouloir m'en débarrasser de tous ces défauts-là qui me nuisent puis nuisent à tout le monde autour de moi. On tourne à la page 81 du 12 par 12. En fait, atteindre une plus grande humilité est le principe de base de chacune des 12 étapes. Chacune des 12 étapes va nous rendre plus humble, ça veut dire qu'il va nous montrer à nous connaître de plus en plus. Chaque étape va m'aider à me connaître pour devenir la personne que je suis supposé d'être au lieu de devenir la personne que j'étais devenue. Les membres des AA ont presque tous pu constater qu'à moins de cultiver cette précieuse qualité, bien au-delà de ce qui est requis pour simplement demeurer abstinent, il y a encore peu de chances de devenir vraiment heureux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être joyeux, heureux et libre si on continue à avoir tous nos défauts de caractère. Parce que ces défauts-là nous rendent malheureux et rendent les gens autour de nous autres malheureux. Sans l'humilité, leur vie sera peu utile et dans l'adversité, ils ne pourront pas compter sur les ressources de la foi qui exigent des situations critiques. Je ne pourrais pas demander à Dieu de m'aider si je continue à développer mes défauts de caractère. Mais si je commence à demander à Dieu qu'il m'aide à avoir la volonté de me débarrasser de ces défauts de caractère-là, mais je n'aurai pas de misère quand la vie n'est pas fair avec moi, quand la vie n'est pas correcte avec moi. Mais je n'ai pas de misère à dire à Dieu, viens, aide-moi de passer à travers ça. Montre-moi comment agir, envoie du monde dans ma vie ou des idées dans ma tête pour que je puisse passer à travers les travers de la vie. L'humilité, le mot lui-même, est l'idéal qui l'équivaut. On connaît bien mauvais sort dans notre société parce que le monde, souvent, on prétend qu'être humble, c'est s'humilier. Ce n'est pas s'humilier du tout, c'est juste se connaître. Je vais me connaître, je vais devenir humble. Savoir dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Puis ils disent bien des gens n'ont même pas la moindre idée que l'humilité peut être, peut constituer un mode de vie. C'est un mode de vie qu'on pratique avec nos deux étapes, de se connaître le mieux possible tous les jours, avec toutes les étapes. On va aller dans le bas de la page 82. Je vais sauter des paragraphes, là, parce que j'ai souligné. Depuis des milliers d'années, nous n'avons pas cessé de réclamer plus que notre part de sécurité, de prestige et d'affection. Nos trois grands instincts naturels. Toute notre vie, depuis que le monde existe, il dit qu'on a continué, tout le monde, ou à peu près tout le monde, continue de faire ça, d'exagérer dans ces trois instincts naturels-là, dans notre sécurité, le prestige et l'affection. On n'a jamais assez, on n'a jamais d'assez bonne. Puis il y avait un de mes mentors en Floride, il disait tout le temps, il dit, tu sais, Hubal, quand on va partager à quelque part, puis le monde nous remercie, hein, il dit, ils en mettent donc pas gros, hein, il me semble qu'il pourrait en rajouter, ils en mettent donc pas gros, hein. C'est le feeling souvent qu'on a, ça. Tu sais, il me semble, j'ai fait un bon partage, j'étais assez à la coche, là, puis ils n'ont pas tout me dire merci, puis ils m'ont pas dit que j'étais le meilleur, puis ben, voyons donc, tu sais. C'est ça, ça fait partie de nos défauts de prestige, hein. Dans tous ces efforts, le plus souvent bien intentionnés, ce qui nous faisait le plus défaut était notre manque d'humilité. C'est parce que je me connais mal, je me connais pas, je pense que je me connais, puis je me connais pas, puis le jour que je commence à me connaître, bien, tout ça va changer drastiquement. D'une façon, en haut de la page 83, là, d'une façon tout à fait caractéristique, nous sommes lancés à fond sans faire la différence entre la fin et les moyens. Dans notre vie, en tout cas, moi, j'en étais un de ceux-là, je pensais qu'avoir la fin dans ma vie, obtenir ma vie, c'est d'avoir le plus d'argent possible, avoir les grosses maisons, les gros chars, puis tout ce qui ça comporte. Puis j'ai découvert à travers dehors que c'est pas ça du tout. Le but de ma vie, c'est de devenir joyeux, heureux et libre, sans consommer, sans vous faire mal à vous autres, puis en étant prêt à vous aider. C'est là que je fais le mieux. Tu sais, souvent mes filles, ils m'appellent et disent « Ah, je m'excuse de te déranger. » Ils disent « Tu ne me déranges pas. » Parce que je dis « Même qu'on ait fini de partager, même qu'on ait fini de parler ensemble à soir, là, je vais filer mieux que quand j'ai commencé. » Pourquoi que je ne voudrais pas ça? C'est comme faire l'étude du gros livre, l'étude des étapes qu'on fait là. Tu sais, moi, je le sais, je ne sais pas comment vous autres allez en bénéficier, mais je le sais qu'à soir, mais que je ferme le micro, moi, je vais filer 10 fois mieux que quand j'ai commencé. Pourquoi? Parce que c'est un aide que ça m'apporte. Puis on se donne le pouvoir ou l'impression qu'on peut aider d'autres personnes à faire comprendre ce qui est écrit là-dedans. Il est vrai que la plupart d'entre nous croyaient souhaitable d'avoir un bon caractère, mais de toute évidence, on en avait besoin pour sa propre satisfaction. On obtient plus facilement ce que l'on veut vraiment avec suffisamment d'honnêteté et de sens moral. Par contre, chaque fois qu'il fallait choisir dans notre caractère et notre confort, l'amélioration de notre caractère disparaissait dans la poussière. Tu sais, je vais être dans mon confort, mais ça va être, je vais aider mon défaut, mon caractère à changer. Ben, j'opte tout le temps pour la manière plus facile qui ne marche pas. Il ne nous venait jamais à l'esprit de faire de l'honnêteté, de l'atterrance et du véritable amour de l'humain et de Dieu la base quotidienne de notre vie. On l'a lu à page 86, je pense, du gros livre, là, dans le bas de la page 86, qui nous dit que notre but véritable dans la vie, c'est de se préparer à se mettre en état de servir. Mais la sixième, septième étape, c'est des grosses étapes pour me mettre en état de servir. Tu sais, si j'enlève mon égoïsme, mon égocentrisme, ma malhonnêteté, mon manque de considération puis mes peurs, mais je vais être de service pour vous autres. C'est ça qui va me donner une joie de vivre, un gain de bonheur. Il nous dit de mettre en état de servir le plus possible Dieu et les personnes qui nous entourent. Comme je le dis souvent, quand j'arrive au haut, moi, je n'ai pas de service. Aujourd'hui, je peux servir à différents degrés, à différents niveaux, avec différentes personnes. Ce manque d'ancrage à des valeurs permanentes, cette ignorance du but véritable de notre vie produisant un autre mauvais résultat. Tant est-ce le temps que nous étions convaincus de pouvoir vivre exclusivement par notre propre force et notre propre intelligence, il nous a été impossible d'accéder à une foi efficace en une puissance supérieure. C'est ça, moi, que j'ai découvert. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une foi efficace en l'aide suprême, en puissance supérieure, en Dieu, quel que soit le nom. Avant d'arriver à haut, j'avais pas cette foi-là, j'avais pas cet accès à cette foi-là. Le Dieu que j'avais, j'en voulais, je voulais rien savoir de lui. Ma conception était complètement erronée. Puis ma vie était loin de bien aller. Elle n'allait pas bien, parce que je me suis rendu dans une salle d'alcoolique anonyme, ça veut dire que ça n'allait pas trop bien. Puis aujourd'hui, à travers de vous autres, à travers des étapes du gros livre 12 par 12, bien, j'ai accès à une foi efficace en ma puissance supérieure. C'est-tu assez fort? Une foi efficace en ma puissance supérieure. Moi, c'est une des phrases que j'aime le mieux dans le 12 par 12. J'ai accès à une foi efficace que je n'ai jamais eue pendant les 45 premières années de ma vie. Puis ils nous disent, même si nous croyons en l'existence de Dieu, nous pouvons effectivement avoir les plus profondes convictions religieuses, mais elles demeurent stériles. Ils nous disent, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est quoi la foi sans ses œuvres? C'est de croire que Dieu va tout m'apporter, va m'apporter joie, bonheur, puis sérénité, puis tout ça, puis je ne fais rien en conséquence. C'est pour ça que quand quelqu'un m'appelle, je pense une heure avec eux autres, je viens faire une étude de Grodin, bien, je donne de mon temps, puis je fais le mieux. C'est ça que c'est fait. Je fais de l'action. Pour faire de l'action, aller aider les autres, comme il le dit à page 86. Effectivement, vous avez des profondes convictions religieuses, mais elles demeurent stériles. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte, parce qu'on est encore de juger, de jouer le rôle de Dieu. Tant que notre autosuffisance occupait la première place, ma volonté personnelle déchaînée occupait la première place, il est hors de question d'avoir une véritable confiance en une puissance supérieure. C'est certain, je me bats avec lui pour savoir qui va prendre la main. Ça ne marche pas. Dieu, il va se retirer puis il va attendre que je lui demande de l'aide. Tant que notre autosuffisance occupait la première place, il y a hors de question d'avoir une véritable confiance en une puissance supérieure. Il manquait cet ingrédient de base de toute humilité, le désir de chercher la volonté de Dieu et de l'accomplir. C'est ça mon humilité, c'est que Dieu soit en premier, que Dieu soit là, que Dieu me guide, que Dieu m'aide tout le temps. Puis c'est pour ça que je dis toujours, quand il me vient une idée dans la tête, je me dis, c'est-tu correct si je pense de même? Puis quand je vais pour agir cette idée-là, je demande à Dieu, c'est-tu correct si j'agis comme ça? Puis si je fais ça dans tout le temps, dans tous les domaines de ma vie, bien, ma vie va s'améliorer de beaucoup. Dans notre cas, la démarche pour acquérir une nouvelle perspective va être incroyablement douloureuse. C'est seulement après des humiliations répétées que nous avons été obligés d'apprendre quelque chose sur l'humilité. C'est certain, si je n'ai pas d'humilité, je vais me faire humilier à un moment donné, je vais faire des choses pas normales, puis le monde va rire de moi, ils vont me réprimander, ils vont me mettre en prison. C'est ça. Mais si je deviens humble, ça veut dire si je connais qui je suis, connais mes capacités et mes incapacités, mais je n'aurai pas besoin de me faire humilier. Ce n'est qu'au terme d'une longue route marquée par une série de défaites et d'humiliations et par la disparition totale de notre autosuffisance. Il faut que Dieu passe avant moi, s'il n'y a pas d'erreur. Que nous avons commencé à percevoir autre chose dans l'humilité qu'un état de profond désespoir. Et ce qui se passe, c'est qu'on est tout le temps dans le désespoir si on ne fait pas ce qu'on est supposé de faire. Chez les alcooliques anonymes, on répète au nouveau, qui ne tardent pas d'ailleurs à s'en rendre compte, que l'humble aveu de leur impuissance devant l'alcool marque la première étape de leur libération sur cette emprise paralysante. Il faut beaucoup de temps à la plupart d'entre nous pour écarter à jamais de cette répugnance à l'avenir de devenir humble, pour considérer l'humilité comme une voie vers la vraie liberté de l'esprit humain, pour être prêt à désirer l'humilité pour soi-même. Une vie entière axée sur l'égocentrisme ne peut pas se transformer subitement. Au début, la révolte entraînera chacun de nos pas. C'est certain que c'est dur. C'est pas facile de faire une 6 et 7. Ça a l'air bien simple, mais ça ne l'est pas parce que là, je vais être obligé de vivre sans mes défauts de caractère. Puis que je pensais que ces défauts-là m'aidaient, puis je m'aperçois aujourd'hui qu'ils me nuisent, puis ils nuisent à vous autres. Dans le milieu de la page 85, ils nous disent, nous voudrons nous débarrasser de certains de ces défauts. Mais parfois, la tâche nous paraît impossible et nous reculons. Tu sais, quand on a un gros défaut, bien, c'est l'ouvrage à s'en débarrasser, puis des fois, je perds patience. Je demande à Dieu une couple de fois, puis ça ne se passe pas, bien, je retombe en pleine face dedans. Nous reculons. Nous nous accrochons avec une persistance farouche à d'autres tout aussi dangereux pour notre équilibre parce que nous les aimons encore trop. Tu sais, je pense que la colère, c'est bon. La colère, je me justifie, puis je les donne, je montre comment faire. Puis en réalité, c'est un des pires défauts que je peux avoir. Comment réussir à trouver cette force et de bonne volonté pour se débarrasser de tels désirs et compulsions aussi écrasants? Une fois de plus, nous serons confrontés à l'implacable choix qui nous laisse l'expérience des hauts. Essayer de toutes nos forces pour retomber. À ce stade de la progression, nous subissons une forte pression, une contrainte qui nous pousse vers la bonne décision. Nous sommes forcés de choisir entre le prix de l'effort et les conséquences du refus d'essayer. C'est certain que ce n'est pas facile de vouloir se débarrasser, puis on a des défauts. On est quasiment en amour avec eux autres, ou on pense que c'est quasiment des qualités, puis il faut se débarrasser de ça. Ce n'est pas facile. On va aller à page 86, ils nous disent, dans le bas du premier paragraphe, là, alors qu'auparavant, l'humilité était forcée, elle devient maintenant l'ingrédient nutritif qui peut nous apporter de la sérénité. C'est juste en devenant humble, c'est-à-dire en connaissant mes défauts, en demandant à Dieu qu'il m'en débarrasse, que je peux obtenir la sérénité. Parce que quand je crie après les autres, puis je parle contre les autres, mais le soir, quand je vais me coucher, je ne file pas trop bien. Je ne sais pas vous autres, ça m'est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive. Puis je ne suis pas trop content de l'Ubal quand ça fait ça. Fait que le lendemain, j'essaie de faire des corrections et demander à mon aide suprême qu'il m'enlève ces mauvais défauts-là, qui vous nuisent puis qui me nuisent aussi. Cette perception améliorée de l'humilité apporte un autre genre de changement radical dans notre vision des choses. Nous entrevoyons des immenses bienfaits qui résultent directement de ce douloureux dégonflement de l'ego. Jusqu'ici, notre existence était largement consacrée à échapper à la souffrance et aux difficultés. Nous les fuyons comme la peste. Nous ne voulions plus jamais faire face à la souffrance. Nous choisissons toujours de nous évader par la bouteille. Les saints peuvent bien former leur caractère dans la souffrance, mais nous ne voyons là certainement aucun attrait. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai appris, c'est que je n'ai plus besoin de souffrir, moi, pour améliorer. Je n'ai plus besoin de souffrir. Je peux mettre mes défauts de caractère et les donner à Dieu, qui s'arrange avec ça, puis je n'ai plus besoin de souffrir. Je peux changer sans avoir de souffrance. Puis c'est ça que les étapes nous montrent. C'est qu'éventuellement, on va être capable de changer notre défaut de caractère sans souffrir de ça. Ce prix d'admission, dans chaque cas, la souffrance était prêt à payer pour entrer une nouvelle vie. Ce prix d'admission nous avait procuré plus que nous attendions. Il nous a apporté une dose d'humilité et bientôt, nous avons découvert qu'elle soulageait la souffrance. Nous avons commencé à moins redouter la souffrance et à vouloir l'humilité plus que jamais. Plus que je vais connaître mes défauts, plus que je vais vouloir m'en débarrasser, bien moins que je vais souffrir puis moins que je vais vous faire souffrir. C'est dur à comprendre, mais c'est la vérité. Pendant cet apprentissage de l'humilité, le résultat le plus marquant a été notre changement d'attitude envers Dieu. C'est ça, mon changement d'attitude a fallu qu'il arrive en deuxième étape. Il a fallu que je commence en deuxième étape de changer mon attitude envers Dieu parce que ça ne marchait pas, la confiance ou l'attitude que j'avais envers Dieu ne marchait pas. Aujourd'hui, j'ai un Dieu efficace qui a commencé à deuxième étape et continue de s'améliorer. Puis à l'étape 11, ils vont nous dire qu'on va continuer à améliorer notre contact conscient avec cet être suprême-là. Ça veut dire qu'on est loin de l'avoir parfait, mais en troisième étape, on est capable d'y redonner notre vie, nos actions et nos pensées assez pour aider notre passé, puis de là, on va continuer l'étape 10, 11 et 12 à parfaire notre mode de vie. Pendant cet apprentissage, le résultat le plus marquant était notre changement d'attitude envers Dieu. C'était vrai autant sur les croyants que sur les incroyants. Tu sais, les croyants, on est tous des croyants, mais souvent on se pense incroyant peut-être parce qu'on ne croit pas à Jésus qui est mort sur la croix, puis on ne croit pas à ci, puis on ne croit pas à ça, puis on se croit des incroyants. On est des croyants, on croit en la vie, on croit en nous-mêmes, on croit en quelque chose. La croyance, ce n'est pas toujours basé sur la foi, même si dans notre tête, on pense que c'est toujours basé sur la foi, mais ça ne l'est pas. Nous avons peu à peu cessé de croire que la puissance supérieure était une espèce de supplément dans une obscure équipe mineure à qui on fait appel seulement dans les cas d'urgence. Tu sais, si on s'est servi du bon Dieu, comme ils font dans les équipes de hockey, là, mettons que le goalie ne peut pas rentrer le soir, l'autre, le deuxième goalie est malade, mais ils ont pris le gars qui chauffait le Sam Bonilla, là, ils ont pris puis ils l'ont mis à sa place, puis ils ont gagné la game. Là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait à ce gars-là? On n'a pas demandé de bien jouer notre game, on l'a envoyé, puis on dit, va retourner sur ta job. Mais c'est ça qu'on a fait avec Dieu toute notre vie. Tu sais, une espèce de supplément dans une obscure équipe mineure qu'on fait appel seulement dans les cas d'urgence. Quand ça va bien mal, là, puis ça va encore plus mal, nous, on va penser à Dieu. Pour pas que ça aille si mal, il faut penser à Dieu tous les jours, mettre Dieu en avant de notre volonté tout le temps. L'idée que nous mènerons encore notre propre vie avec de temps en temps l'aide de Dieu s'est peu à peu évaporée. Rendue à 6e, 7e étape, elle devrait être pas mal évaporée parce que depuis la deuxième partie de la première étape qu'on commence à croire une puissance différente de ce qu'on a toujours cru. Plusieurs d'entre nous qui se croyaient religieux ont pris conscience de leurs limites. En refusant de donner la première place à Dieu, nous nous sommes privés de son aide. Même ceux, les catholiques, les religieux, ont ces problèmes-là. Mais la phrase suivante, « De moi-même, je ne suis rien, c'est le Père qui agit en moi », a commencé à porter ses promesses merveilleuses et a pris tout son sens. Il faut que je m'incline devant ça, il faut que je continue de croire que ce n'est pas moi qui mène ma vie. C'est Dieu de ma conception, puis tous les jours, 100 fois par jour, 1000 fois par jour, si tu veux. Dieu, aide-moi à passer à travers ça. Merci, mon Dieu, pour ce que la vie peut m'apporter de bon. Nous avons compris que pour devenir humble, il n'est pas toujours nécessaire d'y être forcé. Nous pouvons chercher l'humilité de plein gré et ou l'acquérir sous le coup d'une souffrance continue. On n'a plus besoin de souffrance. On a juste à demander de l'aide de Dieu. Quand ça va mal, moi, je dis à Dieu, aide-moi. Quand j'ai des peurs, je dis à Dieu, enlève-moi ces peurs-là. Puis quand ça va bien, j'ai dit merci, mon Dieu. Puis ma vie a changé drastiquement. Puis elle a continué d'évoluer, elle a continué de changer. Je me dis à 73 ans, j'ai 30 années de service d'en haut. Et puis, j'ai encore des peurs, puis j'ai encore des moments que ça ne va pas bien, puis j'ai encore des souffrances. Puis, dans une couple de jours, dans une semaine, peut-être pas une semaine, parce que après, il y a un fidèle qui vient me voir, puis il était plein de peurs. Puis j'ai dit, bien, justement, j'en ai eu deux hier soir. Juste, les peurs, c'est drôle comment ça marche. Les peurs, c'est aussitôt qu'on va se coucher, on dirait qu'ils commencent. Là, je me couche, puis deux grosses peurs qui viennent dans ma tête. Mais là, je le réalise. Pas obligé de passer la nuit debout, me réveiller, puis retourner. Non, j'ai dit à Dieu, enlève-moi ça, ces peurs-là. Puis, je m'en vais dormir, j'ai pas besoin de ça. Là. Enlève-moi ces peurs-là, puis demain, on regardera ça, ouais, qu'est-ce que ça a l'air, ces peurs-là, mais qu'il fasse jour. C'est ça que je fais, puis ça a disparu. Ça n'a pas été 15 minutes, je me suis endormi. Puis le lendemain, les deux problèmes que je pensais que j'avais se sont réglés deux autres mains. Tu sais, aller à 5 heures le lendemain soir, les deux problèmes majeurs, les deux grosses peurs avaient disparu complètement, puis j'avais des preuves comme de quoi il est affecté. C'est ça, les peurs. Ça nous attaque quand on est seul, de nuit ou de... Il faut demander pour avoir un aide suprême assez fort pour qu'on ait confiance que lui peut nous débarrasser de ça. Il s'est produit un tournant important dans notre vie, quand l'humilité est devenue une valeur recherchée plutôt qu'une obligation. C'est ça le point tournant. L'étape 6 et 7 devraient être un autre point tournant. En l'étape 3, on a eu un point tournant. En l'étape 6 et 7, on a un autre point tournant dans notre vie. Nous étions alors arrivés au point où nous pouvions commencer à comprendre toute la signification de la 7e étape. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Je demande avec toute humilité, « Mon Dieu, prends tout ce qu'il y a de moi, de bon et de mauvais, puis redonne-moi juste ce qu'il y a de bon, parce que je ne suis même pas capable de différencier le bon du mauvais, parce que moi, j'ai pensé que tout le mauvais que j'avais, c'était de service, puis ça ne l'était pas. Et je demande qu'il m'enlève ça. Au moment d'entreprendre réellement la 7e étape, il y aura lieu pour nous, membres des AA, de nous interroger une fois de plus sur la nature de nos objectifs fondamentaux. Hein? C'est quoi mes motifs dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi que je fais ce que je fais là? Hein? Mes motifs, là, c'est ça qui contrôle ma vie. Puis, qu'est-ce qui doit contrôler ma vie? C'est Dieu de ma compréhension. Chaque fois qu'une idée dans la tête, je dis à Dieu, c'est-tu correct si je pense de même? Puis, quand je vois pour agir cette idée-là, Dieu, c'est-tu correct si j'agis comme ça? Chacun de nous souhaitait vivre en paix avec lui-même et avec son entourage. Nous aimerions être assurés que la grâce de Dieu peut accomplir pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Puis, moi, je peux vous jurer que la grâce de Dieu a fait ça. A fait pour moi des choses que moi, je ne pensais même pas possible, que je ne pensais même pas que ça pouvait arriver. Nous avons vu comment certains défauts, alimentés par des désirs bornés et futiles, sont des obstacles qui nous éloignent de ses objectifs. Je ne peux pas avoir mes défauts puis continuer de demander à Dieu qu'il guide ma vie. Mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Nous voyons très bien maintenant comment nous avons été déraisonnables dans nos exigences envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Avec nos trois instincts naturels, on a eu des exigences qui ont débordé de partout. Nos défauts ont été principalement alimentés par la peur égoïste. Nos défauts, 99% de nos défauts viennent des peurs. Si j'ai une peur, bien là, je vais me protéger en me sortant un défaut. Si j'ai peur de toi, je vais me développer un défaut pour que tu tiennes loin de moi parce que j'ai peur. Fait que quand on comprend ça, on peut voir. Nos défauts ont été principalement alimentés par la peur égoïste. En particulier, la peur qui nous fait craindre de prendre un bien déjà acquis. Moi, j'ai peur de perdre ce que j'ai. Dans toutes les défenses de ma vie, j'ai peur de perdre mon char, mon chien, ma femme, ma job. J'ai toute peur de partir. Les peurs que j'ai. Ou celle de ne pas obtenir ce que je pense qui me revient. Je pense que je devrais avoir une augmentation, je devrais devenir le boss, je devrais avoir un char bleu, je devrais avoir un meilleur chien. Je pense tout que ça me revient, moi, ça. C'est les deux peurs que j'ai. Quand j'ai ces deux peurs-là, puis je mets ça dans tous les aspects de ma vie, mais ça fait des centaines de sortes de peurs que j'ai développées à travers des années. Okay? À toujours exiger, sans jamais obtenir satisfaction, d'être constamment perturbé et frustré. C'est sûr, je demandais toutes sortes de choses qui étaient impossibles, puis je ne l'obtenais pas, puis là, je trouvais que Dieu n'était pas correct. Hein? Nous ne pouvions donc connaître la paix à moins de trouver le moyen de réduire nos exigences. Chacun connaît bien la différence, une exigence, une simple attente. C'est une exigence, je veux que Dieu me donne ci, me donne ça, mais voyons donc, c'est pas ça. Tout ce que je demande à Dieu, de connaître sa volonté à mon égard, puis de me donner la force de le faire, ce que je suis supposé de faire. Il fait mon ménage à temps. Je n'aurai pas le mauvais feeling que j'ai une semaine de temps. C'est par la septième étape que nous changeons d'attitude, ce qui nous permet, guidés par l'humilité, de sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres et vers Dieu. La septième, c'est le point tournant. La sixième, j'ai trouvé ces défauts-là. La septième, là, je suis à pleine face dedans avec mon aide suprême. Débarrasse-moi de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux plus en avoir de ces défauts-là. Okay? La septième étape met entièrement l'accent sur l'humilité. Elle nous dit réellement qu'il nous faut maintenant être disposé à mettre l'humilité en œuvre dans notre tentative d'éliminer nos autres défauts, tout comme nous l'avons fait quand nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et quand nous sommes venus à croire qu'une puissance supérieure humaine pouvait nous rendre la raison. Mais je vais faire la même chose avec mes défauts. Puisque c'est par un tel acte d'humilité que nous avons pu trouver la grâce d'être soustraits à notre fatale obsession, il y a sûrement lieu d'espérer le même résultat avec tous les autres problèmes qu'on pourrait avoir. Avec tous les problèmes et tous les défauts de caractère, bien, je demande à Dieu, prends tout ce que j'ai de bon et de mauvais, puis redonne-moi juste ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est trop long pour cette heure ici, pour cette demi-heure-là, pour cette minute-là. Quand j'ai des peurs, là, ça fait mal tout de suite, puis je veux me débarrasser de ça le plus vite possible. J'aime pas ça quand ça dure deux jours. Je dis à Dieu, enlève-moi ces peurs-là, j'ai pas besoin de ça. Puis aujourd'hui, ça dure plus deux jours, puis deux ans, puis deux mois, puis deux... Ça dure des minutes, puis souvent, c'est des portions de minutes. Mais ça se fait avec la pratique, à force de demander à Dieu, « C'est-tu correct si j'agis de même? C'est-tu correct si je pense de même? Dieu, enlève-moi ces peurs-là. Donne-moi la grâce de passer à travers les problèmes que la vie m'envoie. » Parce que le problème, pas parce que je fais des études d'étape, puis que je connais le gros livre, que la vie n'arrive pas dans ma vie. La vie continue d'arriver dans ma vie. Toutes sortes de choses peuvent arriver qui ne sont pas toujours agréables. Mais je demande à Dieu de ma compréhension de m'aider là-dedans. Il m'aide, puis je ne peux plus vous dire ce qui a été mal hier parce que ça s'est enlevé, ça a disparu. Puis c'est le même avec tous les jours de ma vie. Très peu de choses qui sont continuelles. C'est des choses qui arrivent à mesure. Je demande à Dieu qu'il me les enlève, mais je demande toujours à Dieu, « C'est-tu correct si je pense de même? C'est-tu correct si j'agis de même? » En basant toute ma vie là-dessus, mais je fais beaucoup moins d'erreurs que je faisais. Je suis loin d'être parfait, mais je tends vers la perfection, même si je sais que je ne l'obtiendrai jamais. Puis je vous remercie à vous autres d'être là parce que vous m'aidez beaucoup dans mon humilité. Je vous remercie beaucoup d'être là, de m'écouter, d'écouter ce que j'essaie de vous faire comprendre de ce que moi j'ai compris de l'étude du gros livre à travers du gros livre puis du 12 par 12. D'accord, encore une fois, merci d'être là. Si vous voulez bien, on va finir avec la prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci encore mille fois d'avoir été là, tout le monde.